Il nous a paru important pour cette journée organisée par l'Observatoire de Paris et l'Institut d'astrophysique de parler aussi des contributions de Poincaré à la théorie de la relativité. Il avait suggéré très tôt que cette relativité devait s'appliquer à toutes les interactions, toutes les forces connues, et en particulier à la force de la gravitation. Et il a été le premier à formuler une théorie de la gravitation qui soit relativiste, c'est-à-dire qui soit en accord avec ses lois de transformation de Lorentz. Ayant travaillé moi-même sur le rayonnement gravitationnel, qui est une prédiction de la relativité générale, je sais aussi que la première proposition d'onde gravitationnelle, la première idée d'onde gravitationnelle, c'est Poincaré aussi. Il l'appelait onde gravitique dans le cadre de sa théorie relativiste de la gravitation. Pour nous parler de tout cela, nous avons aujourd'hui Christian Bracco de l'Université de Nice, de l'Observatoire de la Côte d'Azur, qui a beaucoup travaillé sur les contributions de Poincaré sur la relativité et qui va nous faire un exposé sur le lien entre Poincaré et la nouvelle mécanique.
Voilà. Merci. Donc je remercie les organisateurs pour leur invitation. Voilà. Donc la photo usuelle de Poincaré, c'est celle-ci, hein, qu'on connaît bien. J'aime bien celle-là aussi, qui est quand il avait 21 ans, qu'il rentrait à l'école polytechnique, qu'il était à l'école polytechnique. Tout d'abord, donc l'exposé qui va suivre va être divisé en fait plus ou moins en trois parties. La première partie porte sur le contexte, donc le contexte de l'époque dans lequel Poincaré travaille. Alors, on va analyser ensemble la logique du mémoire de Palerme, hein, que Poincaré soumet en juillet 1905 et qui est publié en janvier 1906. Mais avant de faire cela, je dois quand même présenter un petit peu quel est l'univers dans lequel Poincaré va évoluer. Alors, vous savez très bien que le principe de moindre action est né avec Leibniz et Maupertuis dans les années 1740 à peu près, pour Maupertuis. D'abord dans le cadre de la réfraction de la lumière, puis ensuite de la loi des chocs. Et le terrain de prédilection du principe de moindre action, hein, qui dit qu'une certaine quantité doit être optimisée, hein, à l'époque c'est minimisé pour vérifier les équations du mouvement qu'on considère, et c'est le terrain de la mécanique et de l'optique. Donc c'est également le cas, donc c'est étendu par Euler et Lagrange, c'est développé par Hamilton, à l'optique. Donc ici, vous avez les variables de Hamilton avec L, le Lagrangien. Et le principe dit que S, qui est l'intégrale d'action, l'intégrale du Lagrangien dans le temps, qui dépend des variables Q de position et Q point de vitesse généralisée, de moment généralisé, la variation est nulle par rapport à Q et P. Alors, pour l'extension, ce principe, dans le milieu du 19e siècle, s'étend à un domaine dans lequel, au départ, il n'était pas, qui ne le concernait pas, c'est-à-dire à l'électromagnétisme. Et ainsi, Maxwell donne un Lagrangien pour l'interaction de circuits électriques entre eux, pour l'induction. Et pour Poincaré, c'est l'une des plus grandes contributions de Maxwell, la formulation lagrangienne de la théorie, d'une partie de la théorie électromagnétique dans le traité de Maxwell de 1873. Un autre grand personnage qui travaille sur l'action et le principe de moindre action, c'est Helmholtz, qui écrit en fait une intégrale d'action sous cette forme-là, en faisant varier les variables P et Q de manière indépendante. Et c'est la première fois en fait qu'est fait cette variation explicitement indépendante avec les variables P et Q. Et le problème qui se pose alors, c'est de savoir pour le champ électromagnétique notamment, quelle variable joue le rôle de moment, quelle variable joue le rôle de position. Alors, bon, Helmholtz change un petit peu, hein, entre 1892 et 1894, hein, dans un article posthume, il meurt en 1893, je crois. Et explicitement, il l'écrit, Helmholtz, hein, il se donne cette liberté pour aborder des systèmes dans lesquels on ne sait pas ce qui se passe au niveau microscopique. Poincaré, par rapport au principe de moindre action, donc il écrit une communication au CRAS en 1889, les comptes rendus hebdomadaires des sciences de l'Académie des sciences, dans lequel il montre que le second principe de la thermodynamique ne peut pas se réduire à un principe de moindre action. C'était une tentative qui avait été faite en particulier par Helmholtz, mais aussi par Boltzmann lui-même. Il reformule la théorie électromagnétique de Lorentz, alors je crois que c'est celle de 1895, à moins que ce soit déjà l'article de 1899, où Lorentz utilise des travaux virtuels, et il le reformule en termes de principe de moindre action. Et en fait, enfin, dans les volumes de la mécanique céleste, alors je crois que c'est dans le troisième volume, dans le troisième tome, il donne un exposé complet et magistral de toutes les formes possibles que revêt le principe de moindre action, et en particulier de la forme de Helmholtz. Et l'attrait qu'il a pour le principe de moindre action, c'est que ça rejoint son point de vue épistémologique, hein, qu'Elisard appelle le réalisme structurel de Poincaré, qui est qu'il attribue une réalité aux relations entre les objets, mais les objets en eux-mêmes, ils sont appelés à se modifier au fil du temps, les objets d'étude. Et donc c'est un des grands principes de la physique, au-delà de tout modèle mécanique, et qui résiste en particulier à la réduction des variables. Et on verra que dans le mémoire de Palerme, l'action est omniprésente. Ensuite, Poincaré est géomètre, et une géométrie depuis les travaux de Klein en 1872, l'école d'Erlangen, une géométrie, c'est la donnée d'un espace et d'un groupe de transformations qui laisse des propriétés invariantes. Et donc on verra que Poincaré utilise cet aspect-là sur l'invariance de l'action. Alors, il y a aussi l'hypothèse de groupe. Hein. Pour Poincaré, le groupe, c'est quelque chose de très intuitif, qui est plus fondamental, en fait, que les coordonnées, qui, elles, peuvent être soumises à une certaine convention. Alors, pour ce qui est des transformations, un mathématicien va faire des transformations qu'on va appeler actives, si on veut les différencier des transformations passives, qui sont des changements de référentiel. Un mathématicien fait des transformations actives, c'est-à-dire qu'il fait agir une transformation sur un objet. Son objet, c'est un point ou un élément d'une courbe. Donc, on garde le même système de coordonnées, mais on applique la transformation sur l'objet. On n'est pas dans une version où l'objet ne bouge pas, mais le système de coordonnées tourne en sens inverse, par exemple. Donc, en physique, les transformations actives donc, vont agir sur le système physique. C'est-à-dire, Poincaré, quand il va considérer un électron, il ne va pas changer de référentiel, dans le mémoire de Palerme du moins, pour examiner les propriétés de cet électron. Il va faire agir la transformation de Lorentz sur cet électron, le mettre en mouvement en faisant un boost lorentzien. Et donc, on verra comment il introduit ces transformations actives dans le mémoire. Ensuite, très important, il y a tous les travaux de Lorentz. Hein, Lorentz, depuis sa thèse sur les milieux diélectriques, n'a pas lâché le sujet. Et il fait des travaux marquants en 1892, en 1895, en 1899 et en 1904. Et Poincaré joue un petit peu le rôle d'aiguillon avec Lorentz pour lui dire « Bon, je ne suis pas encore satisfait, il faudrait généraliser, etc. etc. » Et le point très important que Lorentz a compris, bon, suite en fait aux conclusions négatives par rapport à l'expérience de Michelson, hein, à l'impossibilité de détecter par des expériences d'optique le mouvement de la Terre par rapport à un hypothétique éther, Lorentz a développé une théorie qu'il appelle des états correspondants. Alors la théorie des états correspondants chez Lorentz, c'est en fait, ça peut être posé en fait comme un problème pour des étudiants de première année. Hein. On a un système avec des charges animées de certaines vitesses dans un référentiel donné. Donc ce système, on l'appelle S0. Donc il y a une densité de charge, il y a des champs. Et puis ce système, on le met en mouvement. Et on le met en mouvement avec une vitesse de translation uniforme. Donc dans ce système en mouvement, Lorentz fait des changements de variables de façon à ce que les équations de Maxwell, les équations qui régissent la dynamique du champ électromagnétique, s'écrivent plus ou moins de la même forme pour le système en mouvement. Quand on fait ce changement de variable, on peut faire comme si on le ramenait au repos, en fait. Donc on peut prendre des équations de Maxwell, on fait x' égale x moins vt, on regarde ce que ça donne sur les dérivées partielles. Par exemple, si je prends l'équation rotationnelle du champ électrique E égale moins dérivée de v sur dt, on injecte le changement de variable x' égale x moins vt, on fait tourner et on voit qu'il y a un terme qu'on va faire passer, qu'on va avoir tendance à regrouper avec un autre. Et puis, si on fait ça sur l'ensemble des équations, Lorentz va mettre comme ça en évidence un changement de variable ici au premier ordre, en V sur C. Voilà le changement de variable que Lorentz donne en 1895. Et après, il traite tout un ensemble de propriétés optiques pour les corps en mouvement à partir de ce changement de variable. Donc il y a un changement, il y a le x' égale x moins vt, vous êtes tous habitués à ça, hein, c'est un mouvement de translation uniforme, on le ramène au repos, quasiment. T', on voit que T' devient T moins Vx. Enfin, j'ai fait C égale 1 ici. Hein. La vitesse de la lumière est mise égale à 1. Normalement, c'est Vx sur C carré, hein, dans la formule de Lorentz. Et on voit que quelque chose qui est très joli, c'est qu'il y a une symétrie qui apparaît dans ces changements de variables qui n'étaient pas connus avant. Pareil pour les champs électriques. La loi de transformation des champs électriques était déjà connue, hein, E plus V vectoriel B. Maintenant, pour le champ magnétique, il y a un B moins V vectoriel E qui traduit aussi une forme de symétrie. Mais ce temps T', pour Lorentz, il appelle ça le temps local, c'est quelque chose qui est... c'est un changement de variable mathématique. Il n'accorde pas de sens physique à ce changement de variable. Et Poincaré va être amené à accorder en fait un sens physique à ce changement de variable pour traiter un problème qu'il a repéré dans la théorie de Lorentz. Alors, comme il a été souligné ce matin et à diverses reprises, Poincaré, effectivement, était professeur à la Sorbonne. Il balayait tous les domaines de la physique, et puis ses étudiants prenaient des notes, ils relisaient les notes, et c'était édité en termes d'ouvrage. Et vous avez 600 pages sur la thermodynamique, autant sur l'électromagnétisme. Et quand il regarde l'électromagnétisme, il examine toutes les théories qui sont disponibles à l'époque. La théorie de Hertz, théorie de Larmor un peu plus tard, théorie de Lorentz, théorie de Weber même. Voilà. Et il regarde un petit peu quels sont les tenants et aboutissants de chaque théorie, quelles sont les forces et les faiblesses. Ça, il aime bien prendre une théorie d'un physicien et regarder où elle pêche et comment on peut, qu'est-ce qu'on peut en faire. Et celle qui a sa préférence, depuis le début, c'est la théorie de Lorentz, mais elle ne satisfait pas aux principes d'action et de réaction. Et ça, Poincaré juge cela très ennuyeux. Et en 1900, pour le 25e anniversaire de la thèse de doctorat de Hendrik Antoon Lorentz, Poincaré, en fait, résout ce problème en disant qu'il ne faut pas seulement considérer la quantité de mouvement d'un corps matériel, mais aussi la quantité de mouvement du rayonnement. Et que la conservation de la quantité de mouvement s'applique aux deux. Et ensuite, il va traiter un exemple, mais avant de traiter cet exemple, il va donner un sens physique au changement de coordonnées qui est ici au premier ordre. Ce ne sont pas les transformations de Lorentz, de la relativité restreinte. Ça, c'est une version au premier ordre. Donc, il interprète ce changement au premier ordre par, en fait, un défaut de synchronisation d'observateurs qui, au repos, qui synchronisent leur horloge par des durées d'émission et de retour d'un signal et qui se croient au repos alors qu'ils sont en mouvement. Et donc, il y a la correction en Vx sur C carré vient de ça. Et donc, ce qui veut dire que Poincaré considère que la vitesse est C, que l'on soit au repos, que l'on soit en mouvement, la vitesse V, dans cette version au premier ordre. On est toujours au premier ordre ici. Donc, il applique cette correction, une correction au premier ordre, à la relativité de Galilée, donc au recul d'un oscillateur hertzien qu'il place au foyer d'un miroir parabolique et qui émet un morceau d'onde plane. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de l'analyse de Poincaré, mais elle est très instructive. Parce qu'elle est relativiste dans l'esprit au premier ordre, toujours. Ce n'est pas général, ici. Donc, il considère ici, vous voyez en haut à gauche le canon qui se déplace, qui a déjà un mouvement dans le référentiel au repos. Il y a un mouvement V'. Et puis, à l'instant 0, il émet un train d'onde. Et à l'instant TF, ce train d'onde s'arrête. Donc, connaissant la position de l'émetteur au départ et à la fin de l'émission, il en déduit, il en calcule la longueur du train d'onde, puisque l'émetteur, donc il calcule la longueur L de l'onde émise. Et il fait la même chose, vu par un observateur qui se déplace à la vitesse V par rapport à ce canon, en utilisant le temps, vous voyez que T'F ici, c'est la correction de Lorentz au premier ordre. Et en faisant cela, il donne la longueur apparente du train d'onde Donc la loi de transformation entre la longueur réelle et la longueur apparente, si L' est égal à L facteur de 1 plus V, et il calcule l'énergie de l'onde plane, donc le fait que c'est une onde plane permet de l'écrire, c'est la longueur fois E carré, c'est égal à J delta T, donc il donne la loi de transformation sur l'énergie J' égale J facteur de 1 moins V. Alors ce qui est très intéressant, bon là je ne vais pas rentrer dans le détail ici, mais c'est que si on note, en fait, la longueur c'est la longueur d'onde en quelque sorte, et donc l'inverse de la longueur c'est la fréquence. Donc déjà ici à l'ordre 1, on voit que fréquence et énergie pour un train d'onde se transforment de la même manière. Ça c'est juste remarque en passant pour les collègues. Donc Miller souligne en fait que Poincaré a été le premier à déduire la transformation d'un pulse de lumière par les transformations de Lorentz au premier ordre, toujours. Donc ensuite, Poincaré se concentre à la conservation de la quantité de mouvement et il refait le même calcul dans le système au repos, dans le système en mouvement. Il obtient les équations qui sont ici l'une, écrites l'une sous l'autre et elles ne sont compatibles que si, pour Poincaré, il y a une force complémentaire qu'il retrouve comme ça la force qu'on appelle force de Lienard. Et c'est Einstein qui, déjà en 1905, puis ensuite en 1906, attribuera en fait une variation de masse qui permet de rendre compte de la compatibilité de ces équations. Parce que pour Poincaré, la masse de l'émetteur est la même avant et après l'émission. Mais il fait appel à une force supplémentaire, et ici, voilà. Mais c'est un article qui est cité par Einstein en 1906, puisque Einstein va corriger Poincaré sur un point qui est le mouvement du centre de masse du système matériel et de la radiation. Montrer que ce mouvement est rectiligne et uniforme, au moins au deuxième ordre. Et il dira que l'essentiel pour l'essentiel, il y a des choses qui sont contenues dans cet article de 1900. Alors, en 1904, donc jusqu'à présent, on avait les transformations de Lorentz en 1895, et pour rendre compte du résultat négatif de l'expérience de Michelson, il fallait envisager une contraction du bras d'interféromètre, c'est-à-dire une hypothèse supplémentaire. Et donc Poincaré disait, mais enfin, bon, on ne va pas multiplier les hypothèses à n'en plus finir, il faudrait avoir une interprétation un peu générale. Donc Lorentz propose un nouveau changement de variable, qui est celui-ci, alors le x en parenthèse, c'est le x moins vt de tout à l'heure, bon, on a changé un peu les notations. Donc, Lorentz obtient l'invariance de trois équations de Maxwell sur quatre, hein, c'est-à-dire qu'on peut, pour le système en mouvement de tout à l'heure, en le ramener au repos et avoir la même forme des équations, mais il n'y en a que trois sur quatre qui ont la même forme. Bon, il y en a une pour laquelle ça ne fonctionne pas. Et pourquoi ça ne fonctionne pas ? Ben parce que Lorentz a utilisé des lois de transformation pour les densités de charge et de courant qui sont différentes des lois correctes, qui se sont avérées correctes plus tard. Alors pourquoi ? Eh bien, c'est que Lorentz, dès le départ, il a considéré qu'il mettait son système en mouvement, avec ce qu'on appellerait un boost galiléen. Et ensuite, par le changement de variable, les variables lorentziennes, ce changement de variable-là, il essaie de revenir à l'état initial. Mais le processus n'est pas symétrique, puisqu'il y a une incompatibilité. Et donc, il ne peut pas avoir la bonne loi de transformation, notamment pour les vitesses et pour les courants, qui sont la densité de charge fois la vitesse. Et c'est ça dont Poincaré s'aperçoit dès le début du mémoire. Et donc, il va porter son effort sur la correction du travail de Lorentz. Il va corriger Lorentz sur ce point. Ensuite, il y a les modèles électromagnétiques de l'électron. Donc, à l'époque, l'électron, faut savoir, donc, il vient d'être découvert, hein, ça doit être 1897, 1898, sa masse est très petite, elle n'est pas encore mesurable, et les gens se demandent même si l'électron a encore une masse matérielle. Si sa masse n'est pas uniquement d'origine électromagnétique due à des effets d'induction. Et alors, les physiciens vont proposer différents modèles d'électrons. À chaque fois, ils vont prendre un électron étendu, qui est une sphère chargée en volume. Et dans le mouvement, cet électron, soit il ne change pas, il reste sphérique, donc ça, c'est le modèle d'électron sphérique d'Abraham, soit il se contracte du facteur qu'il faut, racine de 1 moins V2 sur C2, pour, donc ça, c'est le cas de Lorentz, dont Lorentz calcule la quantité de mouvement, et il applique les états correspondants à l'équation de la mécanique. On verra que c'est très important parce que c'est ce qui permet de fixer le facteur de dilatation. Quand j'ai écrit les équations de Lorentz ici, vous voyez qu'il y a un L qu'on ne met plus aujourd'hui, qui traduit en fait une dilatation arbitraire et auquel l'électromagnétisme n'est pas sensible. C'est-à-dire que ça se simplifie de part et d'autre des équations de Maxwell. Ce facteur L ne rentre pas en compte. Donc pour le fixer, il faut avoir recours à l'équation de la mécanique. Ou alors, c'est le modèle de Langevin, l'électron se contracte dans le sens du mouvement et se dilate dans la direction transverse. Bon, et on verra que c'est le gros souci que rencontre Poincaré, que le modèle d'électron de Lorentz ne satisfait pas les équations de la dynamique, les équations de Hamilton. Alors là, j'ai mis en exergue une phrase de Poincaré qui montre un petit peu sa position. On dit que Poincaré, en mathématiques, il se repose sur l'intuition. Donc là, il dit la physique ne nous donne pas seulement l'occasion de résoudre les problèmes, en tant que mathématicien qui s'intéresse à un problème de physique, elle nous aide à trouver les moyens, et cela de deux manières. Elle nous fait pressentir la solution, elle nous suggère des raisonnements. Donc ça, c'est donc dans la valeur de la science. Et on verra que la condition L égale 1, condition de groupe, hein, auquel on associe le nom de Poincaré, lui est venue en fait de considérations physiques, hein, du fait de l'équation de la mécanique, et que ce n'est pas des considérations mathématiques qui l'ont guidé. Si des considérations purement mathématiques l'avaient guidé, il l'aurait vu plus tôt. Il l'aurait vu en 1895 sur l'écriture des transformations de Lorentz au premier ordre. Il aurait eu la loi de groupe à partir de ça. Alors maintenant, entrons dans le vif du sujet. Donc Poincaré publie une première communication au format habituel du compte-rendu de l'Académie des sciences le 5 juin 1905. Donc ce compte-rendu est diffusé, donc Maurice Crolland expose un petit peu comment se fait la diffusion des comptes-rendus à cette époque. Et le 23 juillet, Poincaré soumet l'article, cette fois de 63 pages, sur la dynamique de l'électron, qui est publié dans une revue qui, je crois, est trimestrielle, qui est une grande revue pour les mathématiciens et les physiciens théoriciens de l'époque, qui est le Circolo Mathematico di Palermo. Ce mémoire se compose de 9 parties. Hein, la gravitation vient en dernier, mais elle occupe une dizaine de pages, hein, même une douzaine, je crois. Donc on va traiter certaines parties ici. Donc c'est un article qui est réputé difficile. Hein, il l'est quand on se plonge dedans, déjà, ce n'est pas les mêmes notations. Il y a le contexte de l'époque. On a l'impression d'aller-retour. On ne comprend pas trop pourquoi. Ça a l'air, on ne voit pas trop, au départ, la logique. Et donc, dans le travail que j'ai mené avec mon collègue Jean-Pierre Provost, ici présent à l'Université de Nice, on s'est intéressé à cette logique du mémoire de Palerme. Alors, on a mis en exergue 4 clés pour nous guider pour suivre cette logique. D'une part, le principe de moindre action, qui va permettre en fait un transfert des symétries de l'électromagnétisme à la mécanique. Et du point de vue épistémologique, c'est assez intéressant de voir que ce principe qui s'est échappé de la mécanique pour aller vers l'électromagnétisme, il revient sous la main de Poincaré pour la dynamique dans le cadre de la mécanique nouvelle. Donc c'est vraiment ça qui nous intéresse. Donc on verra l'utilisation de transformations actives. Les lettres à Lorentz, qui ont été découvertes par Arthur Miller, sont très importantes pour comprendre cette logique du mémoire. Et en fait, là, je dirais un mot aussi sur la pression de Poincaré, qui est en fait un terme de confinement pour stabiliser l'électron de Lorentz, et qui est un terme assez moderne, en fait. Alors, dans la première section de son mémoire, Poincaré corrige en fait Lorentz sur les aspects de transformation de densité de charge et des courants, sur la cinématique avec la vitesse, la loi de composition des vitesses, qui n'était pas présente chez Lorentz, et sur la loi de force. Son objectif, c'est la loi de force. Donc il dit les équations de Maxwell sont susceptibles d'une transformation remarquable découverte par Lorentz et que nous appellerons transformation de Lorentz et qui doit son intérêt à ce qu'elle explique pourquoi aucune expérience n'est susceptible de nous faire connaître le mouvement absolu de l'univers. Invariance des équations, donc pour lui, c'est synonyme de formulation, c'est la formulation mathématique du postulat de relativité. Donc voilà comment Poincaré écrit les transformations de Lorentz. Hein, par rapport à Lorentz, c'était un peu extensif, là c'est beaucoup plus ramassé. Donc vous voyez qu'apparaît un epsilon ici, qui est en fait un paramètre pour ces transformations, qui est homogène de fait à une vitesse. Et vous voyez que ça apparaît avec un signe plus, alors que les relativistes connaissent bien, en fait, que en général, que ce soit chez Einstein ou ailleurs, on met un moins en général. Et donc, dans l'analyse de Poincaré, les historiens, en général, vont tout de suite mettre un moins. Mettre un moins, ça veut dire qu'on change de référentiel, ce que ne fait pas Poincaré. Alors, là, j'ai encore fait C égale 1. L, c'est le facteur de... Poincaré fait C égale 1, d'ailleurs. Il pose C égale 1. L est le facteur de dilatation, toujours pareil. Et le fait qu'il utilise des transformations actives, on va voir comment ça se fait opérationnellement, ça avait été, en fait, nous, on l'a fait indépendamment, et on a montré quelle était la logique de cette utilisation et pourquoi c'était physique. Mais ça avait été souligné en 1886 par un mathématicien, un géomètre de Harvard, qui est Shlomo Sternberg, dans une critique d'un ouvrage, d'historien sur Poincaré. Et de fait, Poincaré ne mentionne jamais un quelconque changement de référentiel. Alors ce qui est délicat, c'est qu'il ne dit pas « je vais faire des transformations actives ». Il les fait pas, parce que c'est naturel par rapport au boost de Lorentz, et c'est naturel par rapport à son côté mathématicien. Mais de fait, il ne mentionne pas de changement de référentiel. Il en fait ailleurs, mais pas ici. Et les transformations actives sont physiques, hein, puisque si vous boostez en fait un système qui va à la vitesse V0, vous obtenez en fait dans les nouvelles coordonnées, vous avez le bon terme pour la cinématique, pour la vitesse. Alors, pour Poincaré, il considère au départ une sphère qui est entraînée dans un mouvement de translation uniforme. Donc voilà l'équation d'une sphère entraînée à la vitesse V dans un mouvement de translation uniforme. Il dit la transformation la changera en ellipsoïde. Donc il fait agir la transformation sur cette équation. Donc il obtient l'écriture de la transformation dans les nouvelles variables primes. Donc pour simplifier les choses, hein, on peut faire V égale 0, et vous voyez tout de suite qu'en faisant V égale 0, vous avez un ellipsoïde, vous avez l'équation d'un ellipsoïde cette fois. Alors, ce qui est important, c'est que, en fait, la contraction devient un effet de la transformation de Lorentz. Vous voyez que vous prenez un système avec V égale 0, vous faites agir la transformation sur lui, vous obtenez l'équation d'un ellipsoïde aplati dans la direction du mouvement, et donc la contraction est un effet de l'action de la transformation sur l'objet. Dans le mémoire, ce n'est pas une hypothèse supplémentaire. Et l'ambiguïté et un peu le flottement de certains historiens sur le sujet vient du fait que dans ses conférences grand public, Poincaré dit qu'il parle de troisième hypothèse, etc., etc., la contraction de Lorentz, qui ce n'est pas du tout en phase avec son travail technique et mathématique. Mais quand il s'adresse au grand public, il le dit lui-même, il reprend une route historique pour ne pas trop effrayer le lecteur. Et comme il considère qu'il réserve, vraiment à une petite élite, en fait, ses discours techniques, il ne revient pas dessus dans ses discours au grand public. C'est Poincaré qui dit pour 100 ingénieurs, on forme un géomètre pur. Donc, je reviendrai un peu là-dessus tout à l'heure. Donc, on obtient la loi de composition des vitesses, la loi de transformation des densités de charge, de courant, ce qui lui permet de corriger Lorentz. Après, ça va très vite. Voilà l'écriture des lois de transformation pour densité de charge et courant. À partir de là, on a les équations sur les potentiels. À partir des potentiels, on a les équations sur les champs. À partir de l'équation sur les champs, on a la transformation des forces. Densité de force et force intégrée. Donc voilà l'écriture, la loi de transformation de la force. Un exemple. Et ça, c'est vraiment son objectif. Alors, donc, tout à l'heure, je reviens sur sur petit l, hein, qui n'est pas fixé par l'électromagnétisme, hein, qui est invariant par dilatation. Par contre, quand on cherche une équation du type F égale md d'une fonction de la vitesse fois v sur dt, à ce moment-là, les transformations des deux membres, en fait, font intervenir des puissances différentes de L. Et si on veut que chacun des membres se transforme de la même manière par l'action de la transformation, il faut que L soit égal à 1. C'était ce qui avait guidé Lorentz dans ses états correspondants appliqués à la mécanique. Mais Lorentz n'avait pas la bonne loi de transformation des forces, il n'avait pas une loi de transformation générale, puisqu'il n'avait pas la loi de transformation sur ρ. Alors, donc Poincaré réduit en fait les transformations auxquelles il s'intéresse, hein, en disant que Mais pour notre objet, nous ne devons considérer qu'une partie des transformations de ce groupe. Nous devons supposer que L est une fonction de epsilon et qu'il s'agit de choisir cette fonction de façon que cette partie du groupe forme un courant groupe. Donc voilà. Donc il fait l'hypothèse que L dépend de epsilon, c'est-à-dire la vitesse, et il montre qu'on doit avoir L égale 1 par une considération de groupe. Alors d'où vient à Poincaré cette idée de groupe ? Alors il y a une, on a dit, j'ai dit tout à l'heure qu'il ne le réalisait pas en 1895. Il y a une communication intéressante, j'ai fait ça en regardant sur une recherche par mots-clés, hein, sur les crasses de 1905, qui parlait de groupe à l'époque. Alors en maths, il y a Poincaré et puis quelques autres matheux qui parlent de groupe. En physique, il y a Poincaré et, enfin physique, mathématique, hein, mécanique, il y a Poincaré et les frères Cossera. Et les frères Cossera, Eugène et François Cossera, dans un article qui est publié, je crois, le 22 avril, il me semble, de mémoire, à l'Académie des sciences, communication de la science du 22 avril, rapporté par Appel, Paul Appel, disent que, pour aborder la mécanique, on aurait intérêt à envisager le problème par le biais de l'action et de l'invariance de cette action par des transformations formant un groupe. Bon, il n'est pas du tout question, à ce moment-là, de groupe de Lorentz ou autre, mais... c'est une idée qui est quand même un peu dans l'air. Alors, lettre à Lorentz. Dans un premier temps, première lettre, donc toutes les lettres datent de mai 1905. Les trois lettres que je vais commenter ici, ces trois extraits. Elles ont été republiées aux archives Henri Poincaré dans la correspondance de Poincaré avec les physiciens. Donc Poincaré écrit à Lorentz. Vous supposez L égale 1. Langevin suppose, alors gamma c'est le facteur de contraction, hein, c'est racine de 1 moins V2 sur C2. Gamma, L puissance 3, L au cube égale 1. Ça, c'est pour assurer que quand on contracte dans un sens et qu'on dilate transversalement, le volume reste le même. J'ai essayé gamma L égale 1. Alors, c'est intéressant qu'il dise. J'ai essayé gamma L égale 1. Ça, c'est pour préserver l'unité de temps, en fait. Mais comme pour le temps local de 1900. Mais cela m'a conduit à des conséquences inadmissibles. D'un autre côté, j'arrive à des contradictions entre les formules de l'action et de l'énergie, avec toutes les hypothèses autres que celles de Langevin. On verra que le véritable problème de Poincaré, c'est le modèle de Langevin, qui lui vérifie les équations d'Hamilton, parce qu'il est stable, ce modèle. Le raisonnement par lequel vous établissez que L égale 1 ne me paraît pas concluant. Dans une deuxième lettre, alors on n'a pas le retour de Lorentz, mais dans une deuxième lettre, Poincaré écrit « Je trouve comme vous L égale 1 par une autre voie, donc celle des groupes. J'espère résoudre bientôt la contradiction ci-dessus, donc les équations d'Hamilton. » Et dans la troisième lettre, il dit « L'impossibilité de détecter le mouvement absolu est complète seulement avec l'hypothèse L égale 1, donc c'est relativiste, puisque c'est le postulat de relativité, etc. Seulement, pour que cette hypothèse soit admissible, il faut admettre que chaque électron est soumis à des forces complémentaires dont le travail est proportionnel aux variations de son volume. » Donc là, on verra que c'est... je reviendrai un peu là-dessus avec Planck tout à l'heure. Alors, maintenant, sur le détail de la contradiction soulevée par Poincaré. Donc, il écrit dans le deuxième paragraphe du mémoire, l'action électromagnétique plus le terme d'interaction de l'électron avec le champ, donc sous cette forme-là, qui n'est pas la forme usuelle, hein, ce n'est pas la forme qu'on utilise aujourd'hui, c'est pas la forme de Schwarzschild, qui date de 1903. C'est une forme qui est en fait celle de Helmholtz. Sauf que Helmholtz, dans le terme de courant J, il ajoutait les courants de Röntgen, parce qu'il était dans l'hypothèse de Hertz, qui n'est pas celle de Lorentz. Donc à partir de là, je vais très vite, hein, la variation par rapport aux variables A et E, si on fait l'hypothèse qu'on a deux équations de Lorentz qui sont indiquées, deux équations de Maxwell indiquées là-haut, div de E égale ρ, B égale ρ de A, on obtient les deux autres équations, ρ de E et ρ de B. Donc après substitution du résultat dans l'intégrale ci-dessus, on obtient une forme plus habituelle, qui est celle donnée par Abraham en fait en 1902, mais qui en fait n'est valable que dans l'approximation des régimes quasi-stationnaires, quand on néglige le rayonnement. Sinon il y a des termes à l'infini qui ne s'évanouissent pas. Voilà. Mais au-delà de ce principe, dès le paragraphe 3, Poincaré met l'accent sur l'invariance de l'action. Parce que donc l'action va être l'intégrale du Lagrangien. Le Lagrangien, il est ici. On va faire l'intégrale de B2 moins E2, donc sur l'espace et sur le temps. Mais quand on regarde comment se transforment les champs E et B, et donc le produit, la quantité B2 moins E2, et comment se transforme l'élément d'intégration d3R dt, ben on voit que les dépendances en L se simplifient et donc que le S est égal à S'. Donc l'action électromagnétique qu'il va considérer est invariante par rapport aux transformations de Lorentz. Et cette action, elle ne dépend que de la position des charges. Ici, les champs ne sont plus invariés. Donc il n'y a plus que la position des charges qui sera l'objet des variations. Alors pour Poincaré, cette propriété d'invariance, en fait, est une propriété générale. Et il y revient, il le dit, en fait, ça a échappé à certains historiens parce que c'est vraiment, ça précède sa discussion très longue sur les modèles. En quelques lignes, il revient sur le Lagrangien qu'il a établi en disant que ce Lagrangien-là, il est relié à l'invariance de l'action. Et donc, effectivement, si on a un électron donc, qui est mis en mouvement, S est égal à l'intégrale de L dt, hein, on a pour un électron dont on va faire l'hypothèse qu'il est statique quand il est au repos, donc qu'il ne pulse pas, pour lequel dx' égale 0. Quand on utilise les lois de transformation sur dt, on va avoir dt' égale L sur gamma dt. Alors attention, ça ne doit pas être interprété comme une dilatation des temps, hein, comme Einstein le met en évidence. Ici, on est dans le même référentiel, et cette relation entre dt' et dt, elle est liée à l'invariance de l'action dans l'intégration. Donc, il retrouve en fait que le Lagrangien donc, qu'il avait établi précédemment, la loi de transformation, donc le Lagrangien pour le système en mouvement, L, c'est petit l fois L', le Lagrangien pour le système au repos, divisé par gamma, c'est-à-dire c'est racine de 1 moins V2. Or, on est au paragraphe 6, donc Poincaré sait que petit l est égal à 1. Il l'a établi dans la loi de groupe au paragraphe 4. Et d'autre part, L', ça va être relié à l'énergie électrostatique de l'électron au repos. Donc là, on a la forme habituelle qu'on connaît, hein, où on a un terme, moins M, c'est racine de 1 moins V2 sur C2. Donc ici, Poincaré a le Lagrangien relativiste par l'invariance de l'action et en dehors de la discussion de modèle. Ceci dit, il ne fait pas une dérivation axiomatique, il repart dans la discussion des modèles parce que sa problématique était vis-à-vis de Lorentz et de la discussion des modèles d'électrons. Alors, une fois qu'on a le Lagrangien, effectivement, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, Poincaré fait A égale 1 hein, pour la masse, il ne s'embarrasse pas. On a évidemment P égale dL sur dV, on a la quantité de mouvement, F égale dP sur dT, on a, en quelques lignes, on a la dynamique, l'équation de la dynamique relativiste. Poincaré va s'assurer que si on remettait L là-dedans et qu'on le faisait dépendre de epsilon, la seule manière d'avoir les deux membres qui se transforment de la même manière, ça c'est pour Lorentz qui fait ça, c'est d'avoir L égale 1. Mais il le sait déjà. Alors, à cette époque-là, ce qui est important, c'est que Poincaré est le seul à envisager des lois de transformation pour des forces autres qu'électrostatiques. Dans le système au repos. Hein. Les gens travaillent avec des forces électrostatiques dans le système au repos. Donc Poincaré va tout de suite appliquer ça à la gravitation. Et c'est assez frappant, parce que dans ses lettres à Lorentz, en mai 1905, Poincaré conclut en disant « J'ai complètement résolu le problème ». Donc un mathématicien comme Poincaré qui dit « J'ai complètement résolu le problème », on l'a souligné tout à l'heure, hein, ça veut dire qu'il ne reviendra pas sur ce problème. Par contre, ce qui l'intéresse, c'est de voir si l'application du postulat de relativité, ce qu'il pense a priori, je crois, est générale. Et si les lois de la gravitation sont covariantes par les transformations de Lorentz également. Et donc, il va reprendre la loi de la dynamique de l'attraction gravitationnelle. Il va rechercher, dans le chapitre 9, il y a tout un discours sur les invariants, les quantités invariantes, etc., sur le formalisme même quadridimensionnel et tout. Mais il se concentre sur la loi de force et il va trouver plusieurs forces, au moins deux expressions différentes, covariantes par les transformations de Lorentz. Donc, il n'y a pas unicité. Ce qui, pour un mathématicien comme lui, va être un petit peu ennuyeux quand même. Et d'autre part, dès ses cours de 1906, il applique ces formes-là pour calculer le périhélie de Mercure. Et il trouve que ça donne 7 secondes d'arc, bien en deçà des 43 secondes qu'on n'arrive pas à expliquer. Et donc il dira, ça va dans le bon sens, donc ça ne peut pas être retenu contre la théorie, mais ce n'est pas tout à fait ça non plus. Donc je crois qu'il y a ça a dû être pour lui un petit peu un problème qu'il n'a pas surmonté et que on sait que c'est la relativité générale qui apportera la solution. Mais il fallait bien voir si ces relations étaient compatibles avec ce que ça donnait si on appliquait Lorentz. Donc finalement, dans ce que je viens d'exposer, qu'est-ce qu'on pourrait dire de la contribution de Poincaré en dehors du groupe de Lorentz et des discussions par rapport à la géométrie qu'il y a dans ce mémoire. Enfin, c'est, je crois qu'on peut dire, c'est l'obtention du Lagrangien relativiste par l'invariance de l'action qui, soumise à la loi de groupe, est une invariance relativiste. Et cette obtention des Lagrangiens, elle est faite avant Planck. Planck revient en fait sur l'article d'Einstein de 1905, hein, où Einstein, à la fin, analyse la transformation des forces et de l'accélération, hein, F égale ma, mais sans relier la force à la quantité de mouvement. Il n'a pas d'équation F égale dp sur dt, Einstein. Et Planck, donc, souhaite une démonstration plus générale, mais pas une démonstration qui fait appel à un système étendu, encore moins à un électron, comme le fait sur le comme Poincaré est parti. Il dit, dans l'état actuel, on ne peut pas attribuer, on ne sait pas comment est constituée la matière, des travaux de force, etc. Vaut mieux éviter, on va prendre une masse ponctuelle. Donc il prend l'équation telle que je l'ai montrée tout à l'heure de la dynamique relativiste, telle que l'écrit Poincaré, hein, et non pas Einstein, et il intègre en fait cette équation pour retrouver les démarches inverses, pour retrouver la quantité de mouvement, et le Lagrangien, et l'action. Mais quand on intègre, on met des constantes. Et en 1906, donc cet article date de mars 1906, Planck ajoute une constante au Lagrangien qui fait que son action n'est pas invariante. Ce qui montre qu'à ce moment-là, il ne se soucie pas de l'invariance relativiste de l'action. Dès 1907, il s'en souciera, hein, parce qu'il reviendra sur H, qui est le quantum d'action, et qui, lui, est bien invariant. Alors, quel était le problème ? Je n'ai plus beaucoup de temps, donc je vais accélérer. Quel était le problème qu'avait rencontré Poincaré ? C'est que si on prend un électron décrit par son champ, son champ électrique, donc là on a les lois de transformation, donc il n'y a pas de champ magnétique dans le référentiel au repos, on a les lois de transformation des champs qui sont écrites ici, hein, supposant un électron unique animé d'un mouvement de translation rectiligne uniforme, on peut, grâce à la transformation de Lorentz, ramener l'étude du champ déterminé par cet électron au cas où l'électron serait immobile. Donc là il fait la transformation active dans l'autre sens. Donc il écrit la loi de transformation des champs, et si on calcule à partir de là l'énergie, la quantité de mouvement et le Lagrangien, donc W' ici, c'est l'énergie électrostatique dans le système au repos, on a ces relations-là. Or, ces relations-là, eh bien, vous savez que pour l'énergie, normalement, il n'y a pas le terme V carré. Hein, c'est 1, ce n'est pas 3 plus V2. Pour la quantité de mouvement, ce n'est pas 4 tiers, c'est 1, la bonne valeur de la quantité de mouvement relativiste. Donc, on ne satisfait pas aux équations de Hamilton. P égale DL sur DV, n'est pas vérifiée dans ce cas-là. Or, L égale 1, c'est important, puisque c'est la loi de groupe, puisque c'est le postulat de relativité, et donc Poincaré ne veut pas rejeter L égale 1. Par contre, et ça c'est le comble de la... C'est vérifié, P égale DL sur DV n'est vérifié que pour une valeur de L, qui est en fait gamma moins 1 tiers, donc le produit L fois gamma puissance 1 tiers, gamma c'est le facteur de contraction, je rappelle, la racine de 1 moins V2 sur C carré, c'est le modèle de Langevin. Donc, il faut modifier le modèle de Lorentz. Donc, il montre que ce problème est relié au problème de la stabilité de l'électron. Donc, il définit un électron générique avec des paramètres de forme, un rayon R et une déformation θ qui dépend de la vitesse. Il prend une loi de liaison générale, hein, générique, du type en loi de puissance, R égale Bθ puissance M. Il fait 3 ou 4 pages de calcul et il montre que, là encore, si on fait l'hypothèse d'une liaison, on retombe sur la valeur L égale gamma moins 1 tiers et ça marche encore avec le modèle de Langevin. Donc, il n'arrive pas à se sortir du modèle de Langevin. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il prend son Lagrangien électromagnétique et il ajoute un terme supplémentaire à Lagrangien qui n'est pas d'origine électromagnétique. Et cette dépendance, il va la prendre, il va montrer, hein, qu'il prend une loi de puissance, il va montrer qu'elle doit être en R3θ², c'est-à-dire qu'elle est proportionnelle au volume de l'électron en mouvement. Alors, on ne va pas détailler les raisonnements de Poincaré ici, simplement, juste pour dire comment ça marche. Si on prend donc le W', facteur de racine de 1 moins V2, ça c'est le Lagrangien électromagnétique qu'on avait tout à l'heure, on ajoute un terme qui est proportionnel au volume de l'électron au repos, en mouvement, parce que le racine de 1 moins V2, pardon. R'3 c'est pour l'électron au repos, mais racine de 1 moins V2 c'est pour l'électron en mouvement. Donc on ajoute un terme de cette nature-là. Eh bien, on voyait bien qu'à partir de là, on peut avoir la stabilité. Hein, on fait l'hypothèse que W' est une fonction en 1 sur R', hein, électrostatique. À ce moment-là, on peut écrire DL total sur DR' égale 0. Ça conduit à introduire en fait un facteur 1 tiers supplémentaire par rapport au Lagrangien électromagnétique. Voilà. Et à ce moment-là, on a P égale DL sur DV. Donc, l'introduction de ce Lagrangien supplémentaire, proportionnel au volume de l'électron en mouvement, permet à Poincaré de vérifier les équations de Hamilton tout en gardant l'hypothèse de Lorentz L égale à 1, et de s'échapper, enfin, du modèle de Langevin. Alors, ce 4 tiers, il est important hein, dans cette histoire-là, parce qu'il est, il va mettre longtemps à être digéré, en fait. Jusqu'en 1910-1911, il n'est pas encore totalement digéré. Donc, Poincaré écrit, on retrouve l'hypothèse de Lorentz, à condition d'ajouter un potentiel supplémentaire, donc proportionnel au volume de l'électron, et il dit qu'il peut être associé à une pression négative qui régnerait à l'intérieur de l'électron. En fait, c'est un terme de confinement. Hein. Les physiciens de particules aujourd'hui diraient que c'est en fait un terme de confinement. Alors, limitation du mémoire, c'est que quand Poincaré revient dans le paragraphe 8, après avoir obtenu ce résultat à la destruction de la masse, il ne considère à nouveau que la masse électromagnétique. C'est-à-dire, il s'en tient à ce que les physiciens de l'époque faisaient. Il ne considère pas le fait que ce terme supplémentaire pourrait contribuer de manière effective, alors qu'il a la même dépendance à vitesse que l'autre, à la masse, en général. Alors, Einstein, lui, avait fait une approche déjà particulière en septembre 1905, hein, de la relation delta E égale delta mc carré, et le facteur 1 tiers supplémentaire, il va le publier en fait en 1907, dans un article, puis une correction à cet article-là, donc il va s'intéresser en fait à ce terme-là, qui fait que quand on a par exemple un gaz dans une enceinte, il faut tenir compte au fait que ce gaz est confiné par la pression exercée par les parois. Et donc tout ça va aboutir en fait. On voit qu'Einstein traite des particules ponctuelles. Poincaré est parti d'un modèle étendu d'électrons avec son champ électromagnétique, mais avec un outil qui est un outil moulinette général. Et d'ailleurs, le terme non-électromagnétique qu'il rajoute au Lagrangien, il va vérifier que l'action associée est invariante. Donc, il a bien conscience de cette généralité. Mais la vraie conciliation va venir avec les travaux de Planck, d'Einstein et de von Laue en 1910, dans son célèbre ouvrage sur la relativité. Donc, c'est ce que montre en fait une courbe qui avait été présentée ici à l'Observatoire dans les séminaires de Jean Eisenstadt, une courbe de Yves Gingras, qui avait fait une étude bibliométrique sur le taux de citation. Alors, je ne sais pas trop ce que ça vaut de faire une étude bibliométrique à cette époque-là, hein, rétrospectivement, mais sur les taux de citation de Poincaré et d'Einstein, donc là, j'ai pris qu'une partie, parce que je ne vais pas commenter le reste, entre 1905 et 1939, donc en blanc, vous avez Poincaré, en noir, vous avez Einstein. Donc, effectivement, Einstein est beaucoup plus cité que Poincaré, hein, c'était la conclusion de Yves, mais la raison, c'est que si on regarde les gens qui font ces citations-là, il y a Einstein, parce qu'il continue à publier sur le sujet, il y a Planck, il y a Lowe, il y a Abraham, c'est tous ces gens-là. Et parce que le sujet, il n'est pas résolu tant que Lowe n'a pas donné le tenseur impulsion énergie et les lois de conservation de ce tenseur. Et donc, 1910, 1911, c'est la fin, parce que Lowe a résolu le problème. Alors maintenant, pour terminer, dans les 5 minutes, je pense, qui restent à peu près, pour terminer... Poincaré donc, s'est exprimé à de multiples reprises hein, sur cette mécanique nouvelle, hein, sur la dynamique de l'électron. Il y a plusieurs conférences hein, qu'il a données, les conférences à Göttingen, les conférences à Lille. Il le remet aussi dans Sciences et méthodes. Enfin bon, dans les dernières pensées, il y a beaucoup de textes. Alors là, je voudrais attirer l'attention sur une facette de Poincaré qui, me semble-t-il, jusqu'à présent, n'avait pas été tellement soulignée, qui est en fait le lien de Poincaré à l'enseignement. Et c'est vrai que Poincaré, par certains côtés, apparaît conservateur dans ses conférences grand public, parce qu'il termine toujours, en gros, par « vous en faites pas, vous allez continuer à enseigner ce que vous enseignez, on gardera nos vieilles habitudes ». Souvent, ça se termine comme ça. Et aussi bien par certains aspects en mathématiques qu'en physique. Alors, voilà une citation donc, qui est issue, je pense, de Sciences et Méthodes. Oui, c'est de Sciences et Méthodes, effectivement. Donc, il dit « Qu'on me permette un vœu, déjà ça commence bien, pour terminer. Supposons que, d'ici quelques années, ces théories subissent de nouvelles épreuves et qu'elles en triomphent. Notre enseignement secondaire courra alors un grand danger. Quelques professeurs, sous-entendu les normaliens, voudront sans doute faire une place aux nouvelles théories. » Il dit que c'est très attrayant, etc. Au moins, on voudra ouvrir aux enfants des aperçus, et avant de leur enseigner la mécanique ordinaire, on les avertira qu'elle a fait son temps, et qu'elle était bonne tout au plus pour cette vieille ganache de Laplace. Et alors, ils ne prendront pas l'habitude de la mécanique ordinaire. C'est avec la mécanique ordinaire qu'ils doivent vivre. Quels que soient les progrès de l'automobilisme, nos voitures n'atteindront jamais les vitesses où elle n'est plus vraie. L'autre n'est qu'un luxe, et l'on ne doit penser au luxe que quand il ne risque plus de nuire au nécessaire. C'était la première formulation de Poincaré. Bon, il y a aussi les aspects sur les conventions hein, qui sont réels chez Poincaré, hein, conventionnalisme de Poincaré par rapport aux discussions des différentes géométries, Lobachevsky, géométrie non euclidienne. Mais ça, c'était dans les années 1890 qu'il avait ce type de discussion. Donc, il termine la conférence Espace et le temps du 4 mai 1912, l'une de ses dernières conférences, après avoir exposé. C'est une conférence très riche, hein, l'Espace et le temps. Si vous avez l'occasion de la lire, c'est l'une des meilleures conférences grand public de Poincaré. Et où il donne vraiment son point de vue et il ne se contente pas de faire un historique. Donc il explicite un petit peu, sans les citer explicitement, mais il détaille les théories d'Einstein et Minkowski. Et il conclut, ça c'est vraiment à la fin, ça n'a rien à voir avec le corps de la conférence. Il conclut sur quelque chose qui n'a rien à voir avec le corps de la conférence. Quelle va être notre position en face de ces nouvelles conceptions? Allons-nous être forcés de modifier nos conclusions? Non, certes, nous avions adopté une convention parce qu'elle nous semblait commode et nous disions que rien ne pourrait nous contraindre à l'abandonner. Aujourd'hui, certains physiciens veulent adopter une convention nouvelle. Ce n'est pas qu'ils y soient contraints, ils la jugent plus commode, voilà tout. Et ceux qui ne sont pas de cet avis peuvent légitimement conserver l'ancienne pour ne pas troubler leurs vieilles habitudes. Je crois entre nous que c'est ce qu'ils feront encore longtemps. Et ce caractère systématique, il est quand même marquant. Il faut savoir qu'à cette époque-là, en 1902, c'est la réforme Georges Legge de l'enseignement en France. Et les scientifiques essaient de mettre l'enseignement scientifique sur le même pied que l'enseignement humaniste, qui est la formation classique des gens à l'époque. Et je crois, enfin, je ne sais pas si je me trompe, mais enfin, le cousin de Poincaré, Raymond Poincaré, avant d'être président du Conseil, était ministre de l'Instruction publique, je crois, en 1891. Son cousin, Lucien Poincaré, était inspecteur général de physique. Poincaré a fait les conférences sous l'égide de Liard au musée pédagogique, dans lesquels, justement, pour l'enseignement. Il a publié dans les premières revues d'innovation mathématique dans les années 1899. Mais je pense qu'il y avait toujours le souci de montrer que cette physique-là, elle venait d'une histoire, que cette histoire pouvait être utilisée dans l'enseignement, que la connaissance des pairs se retrouvait, on retrouvait les traces, il dit comme le squelette d'une éponge, etc., dans les théories qu'on a actuellement. Et il y avait une filiation. Voilà, c'était pas une mode, je crois. Voilà, le discours, c'était pas une mode. Alors, pour contrebalancer ces citations que j'ai données de Poincaré, j'en donne deux autres. Donc, qui est assez intéressante, qui est aussi de 1911, sur l'évolution des lois. Il fait l'hypothèse qu'un être se serait réveillé après avoir été plongé dans une longue léthargie. Et donc, il dit, est-ce que nous, finalement, on ne pourrait pas être dans une même condition? Est-ce que les anciennes lois de la dynamique n'en restent pas moins pratiquement vraies pour le monde qui nous entoure? Mais ne pourrait-on pas dire avec quelque apparence de raison que par suite de la dissipation constante de l'énergie, les vitesses des corps ont dû tendre à diminuer, puisque leur force vive tentait à se transformer en chaleur? Qu'en remontant assez loin dans le passé, on trouverait une époque où les vitesses comparables à celles de la lumière n'étaient pas exceptionnelles, où pour suite, les lois classiques de la dynamique n'étaient pas encore vraies. Donc dans ce monde-là, Poincaré n'aurait pas enseigné la mécanique newtonienne. Il aurait enseigné la mécanique, la nouvelle mécanique. Là, par rapport au quanta, Poincaré s'intéresse tardivement au quanta. 1911, il publie deux articles, puis après il y a des conférences également, et il dit la chose suivante. On peut se demander si la mécanique n'est pas à la veille d'un nouveau bouleversement. C'est les quanta. Cela veut-il dire que cette mécanique de Lorentz n'a eu qu'une fortune éphémère? Donc ça veut dire qu'il pose la question, est-ce que la mécanique de Lorentz n'est pas déjà la vieille mécanique? Donc il dit, pas le moins du monde, les conquêtes d'hier ne sont pas compromises. En tous les points où elles s'écartent de celles de Newton, la mécanique de Lorentz subsiste. On continue à croire qu'aucun mobile ne pourra jamais dépasser la vitesse de la lumière. Seulement à CRDS, on veut en ajouter d'autres, et beaucoup plus déconcertantes. On se demande plus seulement si les équations différentielles de la dynamique doivent être modifiées, mais si les lois du mouvement pourront encore être exprimées par des équations différentielles. Et ce serait la révolution la plus profonde que la philosophie naturelle ait subie depuis Newton. Dépasser. Donc c'est sur la conférence Espace et le temps du 4 mai 1912, hein, qui est la dernière conférence de Poincaré. Donc il revient, il pose la question, hein, dès le début de sa conférence, la révolution qui s'est récemment accomplie dans nos idées sur la mécanique, est-ce que ça va nous amener à, ne va pas nous imposer une conception entièrement nouvelle de l'espace et du temps? Et alors, c'est toujours dans le style de Poincaré, c'est-à-dire, il est dans la filiation de Helmholtz également, qui définissait une géométrie par le mouvement d'un corps solide. Poincaré va répondre, on ne va pas changer notre conception, on va toujours définir par le mouvement d'un corps solide, sauf qu'un corps solide, c'est quoi? Comment on le décrit? On le décrit par l'invariance des équations qui le régissent, et l'invariance par rapport à un groupe de transformation. Et c'est le groupe de Lorentz. C'est ce qu'il appelle la relativité physique le groupe de Lorentz. Et ça, il l'oppose à un changement arbitraire de coordonnées dont finalement on ne se rendrait pas forcément compte, hein, puisqu'il affecterait en même temps tous nos instruments de mesure. Et donc il y a toute une discussion sur cette relativité qu'il appelle psychologique et la relativité physique, qui est la relativité du groupe de Lorentz. Cette conférence est intéressante aussi parce qu'il montre qu'en fait, comme on n'a affaire qu'aux solutions des équations, il est nécessaire d'envisager différents mondes séparés. Sinon, on aurait un univers qui serait tiré à un seul exemplaire et on ne pourrait pas faire vraiment de physique dans cet univers-là. Il conclut que le principe de relativité ne peut devenir une convention qu'à condition que l'action mutuelle de deux systèmes très éloignés tend vers zéro quand leur distance augmente indéfiniment. Et donc là, c'est joli parce que pour nous, maintenant, rétrospectivement, ça peut nous sembler évident, mais là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que par rapport peut-être à ce qu'il a tenté de faire en 1905, eh bien, il considère qu'on ne peut pas faire appliquer ça à un système accéléré qui rayonne, on ne peut pas appliquer ça à la gravitation. Et qu'on ne peut regarder les choses, que le groupe de Lorentz, en fait, a une signification locale, essentiellement. Et alors, bon, évidemment, Poincaré est décédé avant que la formulation de la relativité générale n'ait eu lieu. Hein, probablement aurait-il eu son mot à dire, mais une fois que les physiciens auraient proposé quelque chose, hein, il serait allé voir pour savoir quoi en penser. Probablement une approche comme Einstein où la géométrie est conditionnée par le contenu en énergie l'aurait peut-être pas trop accroché, ça je sais pas. Et peut-être aurait-il préféré une approche plus locale, hein, plus une théorie de jauge. Mais ça, c'est des hypothèses. Voilà, je vous remercie.
Merci beaucoup, Christian, pour ce très bel exposé. Et on va prendre des questions.
Oui, je vous remercie aussi. J'étais ébloui par cet exposé. Mais je voudrais rajouter un tout petit quelque chose. J'ai écouté avec douleur mon ami Alain Chancineur tout à l'heure dire que Henri Poincaré n'avait pas fait le pas décisif. Je ne peux pas soutenir cette opinion. C'est moi qui ai traduit le travail d'Anatoly Logounov qui a actualisé le mémoire de Palerme. Et Poincaré dominait vraiment son sujet, il avait parfaitement compris, et je ne pense pas qu'on puisse en douter encore. C'est simplement, bon, pourquoi ce mémoire a-t-il été occulté quasiment pendant si longtemps, et au point que le changement de vocabulaire faisait qu'on le comprenait mal? Et c'est une histoire qui tient à l'histoire des sciences. Et pour cela, il me faudrait quand même 3 minutes pour l'exposer. Mais la belle époque, c'est-à-dire avant 14, est une époque tout à fait particulière, une époque de hyper-nationalisme. On a du mal à l'imaginer. 27 janvier 1894, c'est l'anniversaire du Kaiser. Et l'historien pan-germaniste Heinrich von Treitschke est invité à faire un discours. Il dit carrément « Encore une guerre victorieuse et la France comme l'ancienne Pologne ne seront plus que des mauvais souvenirs historiques. Hein » Voilà l'ambiance. D'accord. 1905, la guerre russo-japonaise fait rage. Les Russes encaissent désastre sur désastre. Mukden, au mois de mars, va être pris. 40 000 morts de chaque côté. Tsushima, au mois de mai, la flotte russe va être anéantie. Et le comte von Schlieffen, qui est futur maréchal, va voir le Kaiser et lui dit « Les Russes sont par terre. L'heure est venue d'écraser la France définitivement. »
D'accord, merci beaucoup. Voilà, là, on s'éloigne peut-être un petit
alors,
peu de notre sujet. On va
si, c'est tout à fait dans le sujet.
Parce que terminer, ce qui va se passer, votre remarque.
Parce que quand Henri Poincaré présente sa note à l'Académie le lundi 5 juin 1905, c'est la veille du jour où le gouvernement français, intimidé par le Kaiser, qui exige la démission de Théophile Delcassé, ministre des Affaires étrangères, eh bien, le gouvernement français, met dehors Théophile Delcassé malgré ses protestations. Humiliation sans précédent, écrira Clémenceau. Voilà dans quelles circonstances Henri Poincaré présente sa note à l'Académie. Autrement dit, aucun Français n'avait la tête suffisamment claire pour la lire. Mais elle arrive à Göttingen la semaine suivante, au tout début d'un séminaire sur l'électromagnétisme, dans lequel on avait trois exposés qui parlaient des électrons plus rapides que la vitesse de la lumière. La note de Poincaré démolit ces trois exposés. Que va faire Hilbert ? Hilbert, et qui est quand même une intelligence supérieure, eh bien, il comprend immédiatement ce qui se passe. Donc, normalement, il aurait dû arrêter le séminaire, ou au moins le transformer en fonction des nouveaux résultats. Mais, comme cette situation, ce contexte international est tout à fait particulier, il va se dire, il faut germaniser cette découverte fondamentale, c'est un devoir national, hein, et donc, ils vont compiler le travail de Poincaré et celui de Lorentz. Ils ont tout sous la main. Ils ont même le principe de relativité de 1904 de l'année précédente, donc de Poincaré à Saint-Louis. Et
ils
comme...
Lorentz 1904 qui disait déjà
oui.
L'essentiel par rapport à
exact.
Si vous pouvez, on va peut-être ne pas prolonger la discussion. Je vais demander à l'orateur de répondre à votre commentaire.
Je termine.
Si vous terminez tout de suite.
Hein, parce que sinon, on n'a pas le temps pour d'autres questions. Quelques exemplaires pour ceux qui s'intéressent.
Oui.
Du travail de Anatoly Leponov.
Christian, je crois que c'est pas tout à fait le jeu ici. Le jeu, c'est de poser des questions à l'orateur et pas de faire des interventions longues.
Je t'en prie, Jacques.
Donc. Je pense que.
C'était mon étudiant.
Oui, je sais. Termine en 5 minutes.
Non, mais sinon, je ne vais pas avoir le temps d'autres questions. Si vous voulez, on en parle après. On en continue après. Merci pour. On en parle après. Merci.
Ayant la peur du risque d'une chose aussi grave, ils ont cherché un petit jeune pour la présenter. Ouais. Parce qu'il avait beaucoup à gagner, peu à peu.
Alors, oui, alors juste pour répondre.
Alors, donc là, nous avons.
D'accord.
Christian va répondre à ce commentaire.
Alors, par rapport à l'approche d'Einstein, que fait Einstein de la relativité, c'est très différent de ce que fait Poincaré. Poincaré, il est concentré sur les problèmes qu'a rencontré Lorentz, sur le modèle de Langevin. Il le résout avec des outils très généraux. Il a la première formulation relativiste qui tient vraiment complètement de la dynamique relativiste, de l'équation de la dynamique en particulier. Mais il abandonne complètement l'approche qu'il avait donnée en 1900. L'approche de 1900 où il avait donné une synchronisation des horloges au premier ordre. Il ne revient pas là-dessus. Il ne l'étend pas à tout ordre. Et Einstein, lui, il va avoir une approche en termes de justement de discussion sur la simultanéité, de synchronisation, et d'une certaine manière, Einstein est aussi à la recherche. Alors, je ne sais pas quel rôle ça joue exactement, mais d'une mise en cohérence de l'hypothèse des quantas avec la relativité. Il y a une dialectique entre les deux. Et il va vérifier, par exemple, que l'énergie se transforme comme la fréquence à tout ordre. Le second postulat de la relativité, c'est la vitesse de la lumière est indépendante du mouvement de la source dans le référentiel au repos. Bon, donc ça aussi, c'est des choses que Einstein fait et qui montrent que l'origine de sa pensée est très différente de la problématique de laquelle Poincaré est parti et qui prend ses racines déjà avant, hein, son article sur les quantas, où tout n'est pas réglé, je pense, à ce moment-là. Maintenant, par rapport au contexte de l'époque, Poincaré avait connu la guerre de 70 aussi, donc 1870, l'annexion de l'Alsace et de la Lorraine, mais il a toujours discuté avec les scientifiques allemands, les gens ont toujours discuté entre eux. Après, ce qu'il y a, c'est qu'il y a tout un groupe, il y a toute une dynamique qui se fait autour d'Einstein, avec des gens comme Planck qui, qui réalise tout de suite l'intérêt que ça peut avoir. Et je crois que l'intérêt pour Planck, c'est que l'énergie et la fréquence se transforment de la même manière avec transformation de Lorentz. Ce qui veut dire que la quantité H est invariante. Et ça doit être ça qui l'accroche vraiment. Et qui fait qu'il va mettre l'un de ses meilleurs étudiants, qui hélas meurt très jeune, à 22 ans, Kurt von Mosengeil, dans un accident d'alpinisme. Et Max von Laue et Planck vont publier à titre posthume le travail de Mosengeil sur le corps d'épreuve que prend Planck. C'est pas l'électron comme Poincaré, c'est le corps noir, parce que c'est son domaine, c'est là où il est à l'aise. Et bon, ensuite il y aura une mise en forme mathématique avec Minkowski, etc. Mais bon, si vous voulez, on en reparlera plus en dehors. Mais
alors, je crois qu'il faut... y a-t-il...
Non, sinon, je ne vais pas avoir d'autres questions.
Attendez. Là, je vais passer la parole à monsieur
Michel Paty. Bon, je voulais revenir à la conférence que tu nous as donnée, que j'ai trouvée vraiment excellente, parce que tu es allé tout à fait au fond de l'analyse du mémoire de Palerme. Et tu as montré la logique du raisonnement de Poincaré. Et moi, personnellement, je suis absolument d'accord avec cette analyse que tu as faite. Et alors, ce que je voudrais dire, c'est que, bon, moi, j'ai analysé aussi les travaux de Poincaré, etc. Je n'ai pas été aussi à fond, techniquement, pour ce qui est du mémoire de 1905, puisque mon propos était philosophique et épistémologique. Mais ça converge, si tu veux. C'est-à-dire, moi, ce que je trouve, c'est que ce qu'il faut voir, c'est la manière dont l'un ou l'autre, parce que moi, j'ai fait une étude entre Lorentz comparative, Lorentz Poincaré, Einstein, et c'est de voir comment les gens raisonnent et comment ces savants-là raisonnent. Et bon, et il n'y a pas une manière de faire la physique parce qu'elle n'est pas donnée, elle est à inventer. Donc il y a trois personnes qui ont inventé des choses, et puis à un moment, on s'est reçu. Alors au début, ça a été reçu de façon à peu près équivalente. Un type comme Langevin, qui était au courant des travaux aussi bien de Poincaré, parce que lui était très proche de Poincaré, que des travaux d'Einstein, qu'il a découvert et qu'il a admiré tout de suite. Eh bien, pour Langevin, c'est très curieux, parce que pour lui, au fond, il n'y a pas de priorité ni de divergence entre le travail d'Einstein et le travail de Poincaré. Ce sont des travaux qui aboutissent finalement à cette époque, c'est-à-dire 1911-1912, qui aboutissent à la même conclusion. En gros, c'est seulement après que les choses vont choisir entre les deux approches. Et ça va être au moment où la relativité générale s'impose, parce qu'elle est directement dans la direction de ce que pensait Einstein, de la méthode, du mode de pensée d'Einstein par rapport à ses problèmes. Et alors, justement, c'est tout ce que je veux dire ensuite, c'est que l'essentiel dans la différence des deux approches d'Einstein d'un côté et de Lorentz Poincaré de l'autre, c'est que Lorentz Poincaré, on a une approche du problème par la dynamique. On pense que le problème de l'électron, c'est un problème de dynamique, d'électrodynamique. D'ailleurs, c'est le titre commun à tous les papiers à cette époque, y compris celui d'Einstein. Oui, oui, Einstein, il commence par l'électrodynamique, mais il finit autrement.
Voilà. Puis il se raccroche à une problématique qui existait.
Donc, alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que, précisément, tu as dit tout à l'heure que Poincaré, il prend les transformations de Lorentz d'emblée. Il n'insiste pas sur l'hypothèse de Lorentz, mais les transformations de Lorentz qu'il prend d'emblée parce qu'elles lui plaisent, elles ont beaucoup de vertus, en fait, elles ont été établies par Lorentz parce qu'il y avait l'hypothèse de Lorentz physique dynamique de contraction. Alors, c'est pour ça, ça va se poursuivre dans tout le, comme tu l'as très bien montré, ça se poursuit dans tout le travail de Palerme. C'est la dynamique qui est travaillée. Alors qu'Einstein, il s'aperçoit qu'il y a un problème, mais il le pose dans un autre plan, c'est la compatibilité du principe de relativité qu'il faudrait étendre, pour les raisons qu'il décrit, et puis le problème de la constance de la vitesse de la lumière, qui est le cœur de la théorie électromagnétique. Alors ensuite, il s'aperçoit que c'est un problème, en fait, de définition du temps et de l'espace,
exactement.
Et donc il change, il ne fait plus la dynamique, il fait la cinématique.
Je pense aussi, oui,
voilà, moi je crois que c'est essentiel, et ça répond tout de suite aux arguments qui, comme M. Marshall, voudraient voir une priorité, voir que l'un a copié l'autre, moi je pense que Poincaré est génial, c'est évident, y compris dans ce travail. C'est le travail qui est allé le plus loin dans la direction de la dynamique.
Oui.
Mais il se trouve que pour ce genre de problème, c'était pas la dynamique qui était la nouveauté. La nouveauté, c'était qu'il fallait se débarrasser du blocage de l'espace et du temps.
Excusez-moi. Il faudrait que nous prenions des questions courtes, en fait, parce que sinon nous n'aurons le temps de rien faire. Donc il y a une autre question, à condition qu'elle soit courte, si vous...
Elle sera très courte.
Très courte.
Comment expliquer que d'une part, le grand mathématicien rival de Poincaré, Hilbert, a écarté la note de Poincaré qu'il venait de recevoir le 11 ou le 12, le 10 ou le 11 juin. Il les a écartés de son exposé. Il n'a pas voulu l'en entendre parler. Faut expliquer aussi comment, dans la revue de Planck, la note de Poincaré à l'Académie des sciences du 5 juin n'a pas été publiée.
Autrement dit, donc il y a une question
tout ceci
au clair
précède
pour
ces notre... deux événements. Il faut l'expliquer. Ces deux événements précèdent l'arrivée à Göttingen.
Très bien, monsieur, on a compris votre question et
non, j'ai pas fini.
Notre orateur va répondre. Je demande vraiment à ce que les questions soient courtes parce que sinon nous n'allons pas pouvoir continuer le débat.
Simple.
Donc vous avez
pourquoi
posé votre question
en est-il ainsi
et monsieur Bracon va vous répondre.
Donc par rapport à Hilbert, donc Hilbert avait un programme d'axiomatisation de la physique en 1900, hein, qu'il énonce avec il y a une vingtaine de problèmes qu'il liste. Et Hilbert va être sensible à l'approche de Poincaré, à la méthode de Poincaré, mais plus tard, parce qu'en 1915, enfin en décembre 1915, 1916, quand il va s'intéresser à l'approche de la relativité générale, il va prendre une action avec un Lagrangien. Et c'est à partir de cette action qu'il va obtenir les équations de la relativité générale avec le champ électromagnétique.
Parce qu'il je regrette, mais cette réponse n'est pas satisfaisante. Comment expliquer que là, dans le...
Mais il n'était pas censé... La note du Crass...
On a le programme du séminaire de Hilbert. Ce programme a rejeté la note de Poincaré qui était en plein dans le sujet. Hilbert a manifesté une volonté décisive d'écarter Poincaré.
Je vais passer la parole à la question qui est là, M. Provost.
C'est juste
un
petit commentaire, mais parce que comme j'ai travaillé avec Christian, évidemment, je partage toute l'analyse. Je pense que l'histoire des sciences, nous, comme on l'a abordé en tant que scientifiques qui sont devant des articles et qui essaient de comprendre et qui essaient de voir, de rattacher ça autour et de voir un peu quelle logique il y a, etc. Et donc, si on se pose la question de savoir pourquoi le mémoire de Poincaré n'a pas été comprise, et effectivement, la courbe qui avait été présentée là tout à l'heure, là, mais qui ne continuait pas, montrait que Poincaré commençait à être pris en compte par les physiciens théoriciens vers les années 40. Et ça correspond effectivement au développement de la physique théorique avec l'importance du concept de groupe et autres. Donc d'une certaine façon, je pense que la communauté physicienne n'était pas prête, en tout cas, à comprendre ce travail-là. Par contre, Klein, dès 1915, lui, avait dit « mais le mémoire de Poincaré, c'est une mémoire où la relativité est synonyme des invariants, etc. » Donc les mathématiciens, comme Klein et autres, avaient parfaitement compris. Au même moment, curieusement, Lorentz, auquel tout le mémoire avait été attribué, le mémoire, c'est une sorte de réponse à Lorentz, aux questions que Lorentz posait, et en 1915, visiblement... Enfin, sur le moment même, Lorentz n'a pas compris, puisqu'il n'a pas répondu. Enfin, il a répondu, mais d'une façon qui montre qu'il n'a pas compris le mémoire. Et en 1915, même, il arrive jusqu'à dire que l'invariance des équations de Maxwell est due à l'invariance de l'action qu'avait Poincaré. Or, pas du tout. L'action pour les champs n'était pas du tout invariante, puisque c'est la forme hamiltonienne. Donc, il faut regarder les choses de façon très, très, très proche, et je crois que l'incompréhension est assez logique par certains côtés. D'un autre côté, côté Einstein, c'est vrai qu'il y a le problème de l'énergie-masse. C'est un problème que Einstein a sûrement déjà vu chez Poincaré en 1900 avec l'expérience du canon, mais sur lequel il a cherché à creuser jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à 1907 essentiellement, et qui était une vraie problématique. Autrement dit, on a affaire à des problématiques qui sont totalement différentes et qui ont été ressenties aussi de façon différente. Il est clair que la plupart des physiciens sont intéressés, même depuis 1900, depuis le programme de Wien, à savoir quelle est la nature de la masse, est-ce qu'on peut trouver des modèles électromagnétiques qui marchent ou qui ne marchent pas, etc. Et enfin, la dernière remarque que je voudrais faire par rapport à ce qu'a dit Michel Paty, c'est-à-dire concernant l'électromagnétisme, au fond, tout le monde travaille avec l'électromagnétisme, parce que quand Einstein envoie deux complexes lumineux, si les complexes lumineux, ce n'est pas l'électromagnétisme, hein, je me demande. Oui, oui, d'accord. Là, c'est, à la dynamique, je pensais qu'il s'agissait de l'article de septembre. Donc,
la dynamique, ça veut dire qu'on l'attribue comme il l'a montré.
D'accord.
Les changements, l'attraction, les choses comme ça, les changements de coordonnées, a une propriété dynamique.
Là,
c'est un changement de référentiel.
Non, ce n'est pas dynamique, bien, puisque c'est cinématique comme il a été montré. Là, c'est pas, bon. Mais en ce qui concerne l'électromagnétisme, il faut se dire que c'est comme aujourd'hui avec QCD. Hein. Avec QCD, on cherche à trouver les masses des hadrons à partir de QCD. Et trouver, à l'époque, expliquer la masse à partir de l'électromagnétisme me paraît un réflexe tout à fait naturel. Voilà.
J'aurais une question à propos, oui, de la notion de groupe. Tu as l'air de dire que cette notion de groupe de Poincaré, l'utilisation du groupe date de cette époque, mais en fait la relativité ne date pas de Einstein, Lorentz et Poincaré, mais plutôt de Galilée. Et comment quelqu'un comme Poincaré ne savait pas que les lois du mouvement de N-Corps en théorie newtonienne est invariante par le groupe de Galilée?
Là, je ne connais pas trop le problème à N-Corps, quoi. Mais
la dynamique galiléenne, la dynamique newtonienne est invariante par le groupe de Galilée, et ça, c'est quelque chose qui était connu avant.
Le groupe de déplacement, c'est le groupe qu'il considère comme étant celui des sensibles, quoi. C'est-à-dire, c'est celui, comment dire, quand on déplace un objet, c'est les translations, c'est les rotations dans un espace à trois dimensions. Donc il en parle, mais c'est dans l'essentiel hypothèse, et c'est dans des conférences qui sont déjà plus anciennes. Mais là, la véritable découverte pour lui, c'est que les équations de la physique vont être invariantes par des transformations appartenant à un autre groupe, quoi, qui est le groupe de Lorentz.
Peut-être qu'on va la laisser pour la discussion, après. Ou pour le café, après, peut-être. Donc, je vais prendre une autre question, s'il y en a. S'il vous plaît.
Attendez le micro.
Merci. La relativité restreinte ne vérifie pas le principe de action-réaction. Enfin, on trouve des contre-exemples. Je suppose qu'il les avait remarqués. Est-ce que ça ne le gênait pas dans la pratique?
Ah, mais ça, c'est... je pense que c'est lié au problème de... de tension impulsion énergie, non? Avec les... Comment?
Oui. Il faut rajouter.
Oui.
Oui, dans le mémoire, il n'aborde pas.
D'une certaine façon,
d'accord. Nous avons un commentaire là-dessus, je crois. Attendez, le micro.
Oui, merci. Bon, je voudrais poser juste une toute petite question très courte, pour changer. Je voudrais quand même que la physique,
merci,
accepte d'être approximative et de, quand elle fait des approximations, le reconnaître et puis admettre qu'on utilisera toujours de la mécanique classique, comme on utilisera toujours l'électromagnétisme classique et même la théorie des rayons en optique. Donc il faut savoir aussi ne pas vouloir faire une construction absolument définitive. Je rappellerai que nous avons tous appris un théorème de la quantité de mouvement relativiste de la relativité restreinte qui est clairement faux, et c'est visible par n'importe quel étudiant de fin du bac, peut-être même aujourd'hui. Donc il est approximatif, donc il est faux, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'utiliser, ça ne veut pas dire que c'est une bonne solution. Donc il faudrait qu'on accepte que la physique nous dépassera toujours un peu, vraisemblablement, et heureusement, parce que les étudiants des années prochaines, ils auront quelque chose à faire, hein. Donc
merci.
Non, mais c'est... Oui, tout
alors, d'accord, j'aurais une petite question courte. Tu as mentionné que dans la première dérivation de la transformation de Lorentz par Lorentz, il n'avait pas pris en compte correctement la transformation de la densité de charge.
Oui.
Et qu'il y a une équation de Maxwell qui n'est donc pas invariante, mais je suis surpris, je me serais attendu à ce que seules les deux équations de Maxwell qui sont indépendantes des sources, des densités de charge ou des courants, restent invariantes, mais que l'équation d'Ampère et l'équation de Gauss, à ce moment-là, mais ne sont pas invariantes. D'où ça vient, ça? Quelle est la bonne équation? Quelle est l'équation qui était...
Je pense que celle qui ne marche pas, c'est celle sur les courants. Parce qu'elle fait
la loi d'Ampère.
Parce qu'elle fait l'hypothèse. Elle a besoin d'avoir la loi de transformation des vitesses, en plus. Et donc, je ne sais plus comment...
Il avait supposé que la densité de charge est un scalaire.
Il donne une loi de transformation pour la densité de charge. Là, je ne l'ai plus en tête exactement. Mais au départ, il fait rho égale rho zéro. Mais après, quand il fait ses changements de variables, il a une transformation pour la densité de charge. Mais comme il n'a pas la cinématique, il ne s'intéresse pas à la vitesse, Lorentz lui-même le dira plus tard qu'il n'avait pas pensé à regarder ce que donnait cette transformation pour les lois de composition des vitesses. Du coup, il n'avait pas les bonnes lois de transformation pour les vitesses et les courants. Donc, explicitement, il me semble de mémoire que c'est vraiment là. Il doit s'en sortir par un changement un peu arbitraire, je ne sais plus exactement, je ne l'ai plus en tête sur Maxwell-Gauss, mais sur Maxwell-Ampère, je crois que c'est là qu'il y a vraiment le problème.
Poincaré, lui, il avait la bonne transformation des vitesses parce qu'il prenait les transformations de Lorentz.
C'est ça.
Oui. Il a déduisé la.
Exactement.
Oui, il a. Il a clairement corrigé.
Et la transformation de la charge, il l'avait, je ne l'ai pas dit, mais il l'avait en faisant l'hypothèse que la charge totale était invariante. Donc, comme l'ellipsoïde, comme la sphère devient un ellipsoïde quand on applique la transformation, la densité volumique, c'est le rapport de la charge sur le volume. Et donc, la loi de transformation du volume donne l'inverse de la loi de transformation de rho, la densité de charge.
Bien, je crois qu'on va arrêter cette discussion. On va remercier Christian Bracco de nouveau.
Merci à vous.
Et je repasse la parole à Jacques pour quelques mots de conclusion.
Bien, on voit que tout le monde a envie, tout le monde ici est admirateur de Poincaré, et certains encore plus que d'autres. Mais tout le monde est du même côté, il n'y a pas de problème. Je crois que je tiens à remercier tout le monde pour sa participation à cette journée qui a été animée. Je vous donne rendez-vous pour dans 100 ans, pour le bicentenaire de la mort, ou alors dans moins longtemps, dans 48 ans, pour 2054, ce sera mieux. Ce sera le bicentenaire de la naissance. Bien. Allez, au revoir.